semaine qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys are a comedy of errors. You fellow with your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You're midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much ado about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 4 minutes, c'est l'heure du Canu Info du mercredi 8 octobre.
Manuel Valls qui veut casser l'assurance chômage.
Ensuite, les élections qui ont été invalidées à Vénissieux.
La chambre patronale du bâtiment saccagée.
Ensuite, il y a deux agents de la BAC qui ont fini en garde à vue.
Un arrêté anti-prostitution, cette fois c'est à Toulouse.
Ensuite, des drones dans la police nationale.
Si on a le temps, on parlera un peu de l'affaire de la fiole astucieuse.
Ensuite, on finira par notre rubrique « Il faut que ça se sache ».
Mais tout de suite, on va plutôt commencer par une interview du porte-parole du comité kurde de soutien à la ville de Kobané qui est avec nous dans les studios.
Alors bonjour Ali, donc je rappelle que t'es ici en tant que représentant du comité de soutien à Kobané. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous dire Kobané, où ça se situe et qu'est-ce qui se passe en ce moment? On en entend beaucoup parler, donc voilà.
Très bien, donc bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe. Je tiens particulièrement à saluer votre émission, surtout le fait de nous donner la parole. Car sachez que vous êtes la seule radio, les seules personnes qui ont à ce jour nous ont donné du moins la possibilité de nous exprimer. Nous vous remercions pour cela. Ensuite, pour faire pour présenter Kobané. Kobané est un des cantons au nord de la Syrie. Qui est composé donc de la région de Rojava qui englobe trois cantons. Il y a le canton de Kobané qui est au centre, donc, qui est un centre géostratégique. Il y a le canton de d'Efrin, et le canton aussi de Derik.
D'accord, ok, très bien. Et du coup, en ce moment, donc, on a entendu que Kobané était assiégé par le Daesh, ou l'État islamique, là, ça a plein de noms. Et apparemment, donc, c'est une ville qui est située aussi à la frontière, sur la frontière avec la Turquie.
Voilà.
Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce qu'on voit qu'il y a des chars, qui sont des chars turcs sur la frontière, qui sont juste à côté. Mm-hmm. Il y a, la Turquie est normalement dans la coalition pour lutter contre le Daesh, mais les chars ne bougent pas. Qu'est-ce qui se passe à Kobané? Et aussi, qu'est-ce qui se passe à Kobané? Les combats, est-ce qu'ils continuent à l'heure actuelle, etc., etc.
Alors, à l'heure actuelle, on nous informe que les forces de l'État islamique auraient quitté les lieux qu'ils avaient, les trois quartiers qu'ils avaient investis il y a quelques jours, après le bombardement de l'aviation américaine. Mais cela n'empêche pas qu'on est toujours face à un danger imminent d'un génocide envers le peuple kurde de Kobané, et ceci avec l'aval de tous les pays impérialistes et aussi avec le soutien actif de la Turquie, mais aussi du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui les arment directement, qui ne se gênent nullement de faire montrer leur soutien par leur intervention. Et on est donc face à un assiègement de la ville de Kobané, des trois côtés de la ville, mais on peut ajouter à cela le fait que la Turquie, même si elle a mis des chars sur les collines face à Kobané, ceci n'est en aucun cas pour empêcher l'avancée des djihadistes, c'est plus pour faire peur à la population sur place, pour leur montrer pour montrer le soutien de l'État turc aux combattants djihadistes du Daesh, et notamment par rapport à ça. Il y a quelques jours de ça, dans une émission en direct, le monde a vu avec ses propres yeux les relations de l'État turc, de l'armée turque avec le Daesh, car dans une émission en direct, on a vu les combattants du Daesh passer la frontière sous un tunnel des chemins de fer, faisant le salut à l'armée turque qui avait une base militaire à peine à quelques centaines de mètres et qui se préparait à faire rentrer des armes pour aller combattre de l'autre côté de la frontière contre Kobané. Et ceci, comme je vous ai dit, se s'est fait aux vues, aux yeux et au su du monde entier. Alors, sur ce, on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'il n'y a personne qui ne bouge, il n'y a personne qui ne fait rien? Eh bien, on répondrait à cette question par le fait que aujourd'hui, les Kurdes ont le malheur de vivre dans une région dans l'une des régions les plus riches en pétrole, les plus riches en différents minerais et les plus riches en gaz. Donc on voit bien que nous sommes face à un réel complot international contre le peuple de Kobané, contre tous les Kurdes de la région.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, quel est l'intérêt de la Turquie à soutenir le Daesh, l'EI, et à ne pas soutenir les... Et pourquoi la Turquie soutient plus l'EI et ne soutient pas les Kurdes?
Pour une bonne et simple raison, pour la bonne et simple raison que la Turquie est en fait est en face d'une décision historique pour non seulement pour le propre de la Turquie, mais pour l'intérêt de tous les peuples du Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est soit la Turquie fait un pas historique vers la main que lui a tendue le moment de libération du peuple kurde par le biais de son leader Abdullah Öcalan, qui est en ce moment même retenu prisonnier dans les geôles de l'État turc. Et depuis l'été dernier, depuis le Nevroz dernier, le leader des Kurdes, Abdullah Öcalan, a essayé, a tenté de trouver une solution vraiment politique au problème kurde, qui serait vraiment la seule issue pacifique pour la Turquie et pour la région. Or, on voit qu'aujourd'hui, la Turquie prend la décision inverse de tout faire échouer, ainsi que de ce fait de pousser les peuples de Turquie vers une véritable guerre civile. En ce moment même, nous voyons des milliers de personnes affluer à la frontière turco-syrienne, ce afin d'empêcher une guerre civile entre les peuples, ce afin d'empêcher l'avancée des djihadistes vers les frontières turques. Or, aujourd'hui, comment le gouvernement, par le biais de son armée, répond au peuple? C'est en les matant, en les gazant, en les tuant même. Je ne sais pas si on l'a dit au début de l'émission, il y a à ce jour 18 civils assassinés par la police, par les forces de l'État turc.
Oui, c'est des manifestants qui protestaient contre le fait que la Turquie n'intervienne pas.
Qui n'intervient pas, des manifestants qui voyant leurs frères mourir à la frontière de la frontière au vu du monde entier et qui voulaient empêcher ceci. Et la Turquie, comment elle répond? Donc en les tuant, quoi. Et tout de suite après, on traite ces manifestants de vouloir saper le processus de paix, le poste de paix, et de plus, on dit de ces populations-là que ce sont des provocateurs.
Oui, du coup, de saper...
Surtout qu'il n'y a jamais de processus de paix qui a été mis en place pour l'instant.
Bah, il y a une discussion.
Il y a une discussion qui n'a pas été ratifiée en processus par les ministres, du moins par le Parlement turc. Mais c'est vrai qu'à ce stade-là, le processus, enfin, on pourrait dire oui, le pourparler et le processus entre guillemets de paix pour arriver à trouver une solution pacifique, politique au problème kurde est tout à fait lié au sort des Kurdes de Kobané. Si aujourd'hui Kobané tombe, il n'y aura plus de discussion ou de pourparler de paix avec la Turquie.
Donc oui, voilà. Donc ce qu'on peut rappeler, c'est que ça fait de très nombreuses années, ça fait plus de 30 ans que les Kurdes sont organisés en Turquie, parce qu'ils sont énormément en Turquie, avec notamment un mouvement de guérilla, et qui luttent pour leurs droits en Turquie. Et c'est pour ça qu'il y a eu avec leur leader, donc Abdullah Öcalan, qui est en prison. C'est pour ça qu'il a dit que les discussions sur la paix et l'arrêt de la guérilla étaient conditionnées par le sort des Kurdes de Kobané. Parce que, en fait, donc, moi, il y a une précision que j'aimerais que tu nous apportes, c'est que, en fait, donc, les Kurdes de Turquie et les Kurdes de Syrie au Rojava sont de la même mouvance politique, et du coup, quelle est cette mouvance politique? Ils sont de quelle orientation politique? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de créer en Syrie grâce villes qu'ils ont
très bien. Enfin, allusion à une bonne. Un bon sujet, c'est que il y a, oui, du côté de la Turquie, il y a le mouvement du PKK, qui est le parti des travailleurs du Kurdistan. Et en Syrie, à Rojava, donc, il y a le PYD, qui est le parti démocratique du peuple, qui, en son sein, unit toutes les ethnies et toutes les minorités ethniques et toutes les minorités religieuses sont représentées dans cette mouvance. ceux qui lient le PYD au PKK, c'est la même ligne idéologique. Aujourd'hui, ce qui est aussi visé en fait à Rojava, à Kobané, c'est surtout l'administration qui a été créée par les Kurdes de Rojava, qui est basée bien sûr donc, sur l'idéologie du PKK, qui représente un système de démocratie directe, un système pluraliste dans lequel toutes les minorités donc, ethniques, religieuses peuvent avoir leur mot à dire. Et c'est surtout à cela qu'il faut faire allusion. C'est une administration basée sur un système égalitaire, féministe, écologiste et de système de communes. C'est surtout ce système-là en fait qui est visé, car ce système peut, si elle peut avoir le jour, si les Kurdes de Rojava peuvent avoir un statut, il a le risque pour la Turquie que ce système puisse être un modèle pour une Syrie démocratique et pluraliste, mais aussi ça peut aussi être un modèle pour les peuples opprimés du monde entier en fait.
Tout à fait, parce qu'effectivement, ils ont réussi à mettre en place en Syrie, au Rojava, un système extrêmement progressiste de gauche qui, pour l'instant, à ma connaissance, n'existe pas encore dans d'autres endroits du monde.
Tout à fait. Bon, historiquement, il y a eu bien sûr des essais. On peut les citer, mais on les connaît tous. D'autant plus que nous faisons allusion aussi au fait que si aujourd'hui les Kurdes luttent là-bas pour un système plus égalitaire, ce n'est pas que pour eux-mêmes, c'est aussi pour nous qui sommes en Europe, nous qui défendons des idées progressistes, des idées de paix, des idées égalitaires. C'est toutes ces aspirations progressistes que nous avons, qui est représenté par les combattants kurdes de Kobané. Et si aujourd'hui Kobané tombe, ça donnera plus de plus de prétextes aux forces réactionnaires, aux forces impérialistes, pour mieux saper les revendications progressistes des opprimés du monde entier, y compris nous en France.
Donc effectivement, voilà, tu viens de nous présenter une vraie raison pour laquelle on doit absolument soutenir ce mouvement-là. Et avant de te demander qu'est-ce qui se passe à Lyon comme soutien, qu'est-ce qu'on peut faire à Lyon, je voudrais te demander pourquoi est-ce que les Peshmergais, donc qui sont différents du PKK et du PYD, pourquoi est-ce que la coalition internationale, notamment la France, bombarde en soutien aux Peshmergas en Irak et n'aide pas le YPG ou oui, le PKK alors, au Rojava.
Alors c'est vrai que si on suit les médias bourgeois, on voit bien qu'ils ne font nullement allusion aux combattants kurdes du YPG. On n'en entend jamais parler du YPG. Et puis c'est voulu, nous le savons, on ne peut pas attendre plus grand-chose des médias bourgeois. On fait toujours allusion quand il s'agit d'aider les Kurdes de la région ou des bombardements sur les positions des djihadistes Daesh, on fait allusion toujours aux Peshmerga. Or, les Peshmerga, ce sont les combattants kurdes des forces du KDP, des forces de Barzani. Et ceux qui combattent donc à Kobané, ce ne sont pas des Peshmerga, ce sont les combattants de YPG, du Parti démocratique du peuple. Pourquoi on parle toujours des Peshmerga, du KDB, de Barzani. C'est vrai que c'est une question assez difficile à répondre, c'est un peu délicat. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Barzani représente pour les impérialistes et puis pour la Turquie un bon interlocuteur. Un bon interlocuteur, un bon serviteur car c'est un système, c'est un parti qui a toujours suivi une politique de coopération avec les impérialistes. Elle continue à le faire, bien sûr. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les impérialistes arment les Peshmerga du KDP. Or, on voit que Barzani, les Peshmerga, ne partagent pas cet armement avec leurs frères kurdes de Kobané. Vous allez me dire, pour quelle raison ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. La principale étant que le KDP n'accepte pas qu'il y ait une hégémonie de la politique du PKK à Kobané. Donc, de ce fait-là, elle se trouve du côté, entre guillemets, de nos ennemis. Donc, elle ne sert en aucun cas les intérêts des peuples des quatre partis. C'est vraiment dommageable pour nous. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas quand même d'appeler KDP, d'essayer de faire en sorte qu'il prenne position plus avec ses autres frères, qu'il travaille dans le sens d'organiser très rapidement un conseil d'union nationale des Kurdes. Or, à ce jour-là, nous n'avons pas cette union.
D'accord, donc on espère qu'elle sera là.
Qui est sapée malheureusement par la politique coopératiste de Barzani.
Ok, d'accord. Donc on comprend, enfin moi ce que je comprends dans ce que tu m'as dit, c'est aussi le fait qu'au Rojava, si les combattants kurdes contre le Daesh, qui est normalement l'ennemi du monde entier en ce moment, des grandes puissances impérialistes, s'il reçoit aucune soutien, c'est en raison de sa politique qui dérange. Et du coup c'est une politique qu'on a nous, Du coup, le soutien qu'ils peuvent avoir, c'est le soutien des populations dans le monde qui sont d'accord avec ces idées progressistes. Et du coup, il y a eu énormément de manifestations dans toute l'Europe, en Turquie, etc. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, est-ce qu'il se passe des choses à Lyon? Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut soutenir? Et qu'est-ce qu'on demande?
À notre niveau, on a essayé de montrer notre solidarité, de montrer notre colère contre les attaques du Daesh et de l'hypocrisie des pays impérialistes avec des actions qu'on mène depuis plus d'une semaine, notamment à place de la Comédie devant la mairie tous les soirs, en essayant de sensibiliser un nombre important de personnes. Nous avons aussi à plusieurs reprises fait des manifestations allant de la place Bellecour à place des Terreaux. Nous avons été reçus par les adjoints au maire sénateur du Grand Lyon il y a quelques jours, afin de les solliciter pour qu'ils puissent, dans la possibilité de leur administration, de venir en aide humainement dans la région de Kobané, de créer des liens avec les maires appartenant aux Kurdes dans la région, afin de pouvoir acheminer l'aide, car il faut savoir qu'aucune aide
même humanitaire
N'est accepté par le gouvernement turc. Toutes les aides qui viennent humanitaires, qui viennent en Turquie pour les habitants de Kobané, sont stoppées par les militaires turcs et il n'y a aucun moyen de faire passer ces aides. Il n'y a que, malheureusement, les pays occidentaux qui peuvent essayer de faire passer ces aides-là. Et surtout qu'en ce moment-là, il y a une vraie crise humanitaire qu'on est en train de vivre. Bon, la Turquie, elle présente ça d'une autre manière, afin de pouvoir recevoir des aides financières de la part des fonds internationaux. Et bien sûr, elle va certainement pas s'en servir pour aider les Kurdes de Kobané. Mais c'est vrai qu'à ce jour-là, bon... mis à part ses actions à Lyon. Aujourd'hui même, nous avons entamé à Place Bellecour, à partir de midi, une grève de la faim tournante jusqu'à samedi, suite à laquelle, le samedi, nous avons déposé une demande de manifestation. Le rassemblement aura lieu, donc là j'en appelle à tous nos auditeurs pour relayer le message. Samedi prochain, à partir de 15h, nous nous rassemblons Place Bellecour pour marcher jusqu'à Place des Terreaux afin de crier notre colère sur cette situation des populations de Kobané. Ce que nous demandons d'urgence, c'est que toutes les organisations progressistes nous soutiennent dans ces actions pour montrer à la population que nous ne sommes pas d'accord avec les politiques impérialistes de destruction du Moyen-Orient, des massacres qu'on veut perpétrer contre les Kurdes de la région, et que nous sommes solidaires avec la lutte des peuples de Kobané qui quand même, par leur message qu'ils veulent faire passer, luttent aussi pour nos aspirations les plus démocratiques et humanitaires.
Ouais, d'accord. Et du coup, je voulais juste rappeler vite fait, parce qu'on n'a plus le temps, oui, que en fait, notamment parmi les revendications qu'il y a pour les gens qui soutiennent, il y a du coup la reconnaissance internationale du Rojava,
un statut démocratique autonome pour la région de Rojava,
voilà, reconnu,
qui seul pourrait leur permettre de s'armer.
Voilà, ça, et aussi sortir le PKK de la liste des organisations terroristes. Exactement. De l'Union européenne, parce qu'il y est toujours. Et voilà.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup à vous, surtout, de nous avoir donné la parole.
Alors, tu veux compléter par rapport aux infos sur la Turquie ?
Oui, on va faire un rapide bilan des manifestations qui ont eu lieu hier en Turquie, donc, qui étaient en soutien donc, au peuple de Kobané. Donc, 14 personnes ont été tuées mardi, selon le bilan des médias turcs locaux. Leurs manifestations donc, ont éclaté un peu dans toute la Turquie. Face au refus du gouvernement d'Ankara d'intervenir militairement. Alors, de nombreuses autres personnes ont été blessées lors de ces affrontements, qui ont fait très importants dégâts de matériel dans de nombreuses villes du pays. Toujours selon les médias turcs, 8 personnes sont mortes à Diyarbakir, exactement. Donc, qui est le chef-lieu de la province kurde du pays. Il y a eu aussi 2 autres personnes qui ont perdu la vie à Sirte. Une à Batman et une autre à Mus. Pour les autres, on ne sait pas exactement, à moins que tu ne sois pas dans le calcul. Bon. Donc la plupart des victimes ont apparemment été à déplorer lors d'affrontements entre militants kurdes et des adversaires politiques, donc principalement des gens issus du parti politique islamiste UDAPAR. Donc ça, c'est Le Monde qui nous le dit en reprenant des sources de médias locaux.
Parce que par ailleurs, il y a quand même d'autres informations qui disent que les gens, on m'entend pas.
Si.
Ah ok. Qui disent que les gens ont été, que la police a tiré à balles réelles sur des manifestations de Kurdes.
Voilà. Oui. Non, c'est les morts qui sont principalement dus aux. Par contre, les blessés sont principalement imputables à des affrontements avec la police. Mais il faut croire qu'il y en a qui en sont plus déterminés que d'autres. Hein. Enfin bon. Donc d'autres incidents sont arrivés dans les grandes villes du pays, notamment Istanbul et Ankara, où la police est intervenue avec des gaz lacrymaux et des canons à eau à Istanbul pour disperser la manifestation. Il y a eu 98 arrestations juste pour Istanbul, selon l'agence de presse turque Dogan. Alors les manifs, elles ont quand même réussi. Enfin, je sais pas, oui, ça devait être l'objectif, a infligé d'importants dommages matériels, notamment à des bâtiments publics appartenant au parti du gouvernemental et à la justice, enfin au ministère de la justice. Des véhicules ont été incendiés, bon, normal, et des banques et magasins pillés. Alors, c'était ces manifs, donc, comme ils ont, ça a été dit tout à l'heure, c'était à l'appel du Parti démocratique populaire, le HPD. Et qui appelait donc dès lundi les Kurdes à descendre dans la rue. Le PKK, quant à lui, a dit que si le gouvernement d'Ankara ne faisait pas quelque chose pour Kobané, la chute de Kobané mettrait fin au pourparlers. Donc ça, c'est ce qui a déjà été dit. Voilà. For the price of a pole, the road is monster. Honey, I'm starving. I want much more than a penny or a farthing. I told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, wish to your classroom. Speak eloquent, though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it... Alors, eh ben, on change complètement de sujet. Et là, on va parler des dernières déclarations de Manuel Valls, qui, une fois de plus... déclare que le responsable à cette espèce de crise dont on nous parle tant, que le responsable ce serait le chômeur. Alors bien sûr il l'a pas dit comme ça. Pendant une visite à Londres, il a déclaré vouloir bouger les règles de l'indemnisation. Et quand il dit ça, tout le monde comprend que ça ne va pas aller dans le bon sens. Alors il a déclaré, je cite, que les partenaires sociaux auront à se poser à nouveau les questions des devoirs et des chômeurs associés à leurs droits. Des devoirs, il vient d'avoir un paquet, des droits de moins en moins, de l'accompagnement de ces chômeurs par Pôle emploi, alors là on comprend tout de suite hein, qu'il s'agit de flicage, et de se poser la question de l'incitation à la reprise le plus rapide d'une activité. Et quand Valls parle de reprise d'activité plus rapide, on sait très bien ce qu'il sous-entend, c'est de forcer les chômeurs à prendre un emploi, même s'il ne correspond pas du tout à leur curriculum vitae, comme on dit.
Et même s'il n'y a pas du tout d'emploi.
C'est ça, exactement. Que si un chômeur venait à refuser plusieurs fois un job, il pourrait être radié et donc plus indemnisé. Et voilà, ce qu'il sous-entend en plus, c'est que le chômeur est grassement indemnisé pendant qu'il se la coule douce sur la plage, parce que c'est bien connu, aujourd'hui, trouver un job, comme tu le dis, dans cette période de plein emploi, bah, c'est quand même pas très compliqué, allez, un petit effort.
Là, c'est même un tout petit peu plus que ça, ce qu'il dit, hein, c'est que jusqu'à maintenant, le principe, c'est que les chômeurs sont indemnisés autant de jours que ce qu'ils ont bossé, dans la limite de 2 ans.
Ouais.
Dans la limite de 2 ans, mais bon, quand même. Et que là, lui, il trouve que c'est trop longtemps. Si quelqu'un n'a pas trouvé de taf avant, enfin, qu'il faut qu'on les indemnise moins longtemps que ça.
C'est parce qu'il s'est mis à jour sur les. C'est parce que maintenant, les gens ont du mal de travailler plus de 2 ans, c'est pour ça, peut-être, qu'il dit que.
Mais c'est parce que la blague aussi, c'est qu'il utilise l'argument des je sais plus combien de milliers d'emplois non pourvus. Et au lieu de parler d'adaptation de la formation ou de je sais pas quoi, il parle uniquement de cette question-là du point de vue du chômage, quoi.
Et ces chiffres de moi j'ai entendu vite fait à la radio, alors je saurais pas en être sûr et en parler plus, mais c'est que ces chiffres-là d'emplois non pourvus, ils viennent principalement du patronat.
Oui, en gros, c'est des agrégats de chiffres entre les demandes fournies à l'NPE. Mais souvent, c'est des vrais emplois non fournis, mais c'est un tourneur-fraiseur à Brinda. S'il y a Brinda, il n'y a pas de personne qui est tourneur-fraiseur. Si tu ne mets pas en place de formation de tourneur-fraiseur à Brinda, personne ne sera jamais tourneur-fraiseur à Brinda. Donc souvent, c'est des trucs comme ça. C'est les métiers qui sont en tension aussi, les trucs de... Je sais plus exactement, mais notamment les métiers qui sont ouverts à l'immigration, enfin, les premiers métiers qui avaient été ouverts aux Roms, là, c'est des métiers qui sont en tension et qui ont des offres d'emploi non pourvues, mais qui sont souvent des tafs de merde, ouais, et en plus des tafs qualifiés, donc en fait, où on peut pas prendre n'importe quel chômeur qui était DRH dans une boîte de je sais pas quoi. Parce que c'était ça l'exemple qu'il citait ce matin, c'était assez drôle, il citait les cadres qui ont en effet des grosses indemnités chômage et donc qui ont intérêt à rester au chômage jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi aussi bien. Et ils mettaient ça en parallèle avec les 200 000 ou 300 000 emplois non pourvus.
Tout à fait.
Alors qu'un cadre, si tu le mets devant une fraise,
il perd sa main.
Peut-être qu'on devrait essayer.
Tu n'auras plus qu'un demi-cadre. Enfin bon.
Et donc, tout ça devra être négocié entre le patronat et les syndicats. Le patronat qui n'en demandait pas tant, il doit être quand même bien content. Mais ça, quand même, ils ont un peu l'habitude de tous ces cadeaux qu'on leur fait. Et bon, les syndicats se sont dressés contre ces déclarations. CGT est faux. Et alors là même, tenez-vous bien, la CFDT s'est fâchée tout rouge. Bon, enfin, tout orange, hein, quand même, faut pas exagérer. En déclarant, il n'est pas question, dans cette période de hausse du chômage, de baisser les droits des chômeurs, encore moins de renégocier la convention avant son terme. Il se murmurait même dans les coulisses du pouvoir que Laurent Berger, le boss de la CFDT, aurait tapé du poing sur la table. Attention, attention.
On revote en banlieue rouge. Le tribunal administratif de Lyon a décidé l'annulation des élections municipales de Vénissieux. Cette invalidation suit l'avis rendu par le rapporteur public le 23 septembre, qui faisait valoir l'enregistrement d'une liste reconnue comme irrégulière et affirmait que de nombreux électeurs avaient été empêchés de voter aux abords de plusieurs bureaux de vote. Dans son jugement, le tribunal a également déclaré inéligible pour un an Yvan Benedetti et Estelle Gagon, les deux conseillers d'extrême droite élus sur la liste Vénissieux fait front, qui avait rassemblé quand même 10,27% des voix exprimées. Alors, dans l'affaire, il y avait eu deux plaintes. Une première du préfet du Rhône, Jean-François Caranco, qui avait déposé en avril un référé demandant d'annuler l'élection d'Yvan Benedetti et d'Estelle Gagon. Dans sa requête, il rappelait que 19 personnes sur les 49 de la liste n'étaient pas informées qu'elles y figuraient et avaient donc été trompées. Le deuxième recours, c'est le type de l'UMP qui était un peu dégoûté qu'on lui ait pris 10,27% de ses voix et qui pourtant avait fait des efforts, mais bon. Et qui n'avait fait que 30,40% au second tour, mais ce qui est déjà pas mal. Il demandait l'annulation des deux tours du scrutin, rappelant que l'enregistrement d'une liste reconnue comme irrégulière, donc ça c'est le truc qui a permis au tribunal de statuer, et de nombreux électeurs avaient... En fait, non, c'est les deux trucs qui permettent au tribunal de statuer. Alors, celui qui se sent un peu douzé dans l'histoire, c'est Michel Picard, qui avait été réélu avec 36,64% des suffrages à l'issue d'une quadrangulaire. Donc il y avait aussi deux candidats pour la droite et deux candidats pour la gauche. Le Parti Socialiste ayant refusé de se désister. Et donc lui, Michel Picard, qui est
Elle.
Ah, c'est une Michel Picard. Ah oui, d'où le E à la fin de Michel.
Tout à fait.
Eh, bravo. Donc elle, Michel Picard, est un peu dégoûtée parce que... donc elle a déclaré que cette décision était une profonde injustice et qu'elle était totalement incompréhensible. Je cite... La majorité municipale est sanctionnée, alors qu'aucun grief contre notre liste n'a été retenu, ni même évoqué par le tribunal administratif.
Mais, et je me trompe, ou Michel Picard, elle a quand même que le statut communiste, mais quand même dans toutes ses déclarations. Elle n'avait pas fait des déclarations bien craignos sur les Roms et tout ça.
Michel Picard, elle est en droite ligne de son prédécesseur.
Guérin. André Guérin.
Oui.
André Guérin, c'est-à-dire quand même dans la plus pure tradition rouge-brune.
C'est un peu les gens que le Parti communiste aimerait bien virer, mais qui ne veulent plus les virer parce que ça ferait trop stalinien de virer des gens.
Ouais, et puis en même temps, ils gagnent des voix parce que c'est eux qui gardent un peu les voix qui pourraient aller au Front National, dans le sens où ils sont ultra-racistes, où les pauvres, ils les aiment bien à condition qu'ils soient disciplinés, travailleurs et blancs. Et voilà, Michel Picard est tout à fait dans cette lignée-là.
Disons, quand on voit les résultats de Vénissieux, ça fait un peu froid dans le dos. Quand même. Heureusement qu'il y a plein de gens qui s'abstiennent.
Oui, c'est que à Vénissieux, l'extrême droite gagne dans tous les cas, qu'elle soit de gauche ou de droite.
Non, c'est l'abstention quand même, il me semble.
Ah. Vénissieux, non, je crois même pas. Je crois qu'il y avait eu des bons... Enfin bon.
Parce que si on additionne les voix de Michel Picard et des identitaires, des pires qu'identitaires, là, des...
Oh non, non, là on peut carrément dire des fascistes. Ça, c'est des fascistes, hein, carrément, ouais. Je crois.
Revendiqué.
Ouais, ouais,
c'est des fascistes. Et bien ça commence à faire beaucoup pour l'extrême droite et Jeune Nation, non?
Ouais, je sais plus comment il s'appelle maintenant.
Allez, j'arrête votre discussion.
Alors, ce matin, 150 militants de la CGT Construction, Bois et Ameublement se sont donné rendez-vous dans les locaux de la chambre patronale du bâtiment à Villeurbanne. Alors, ces militants CGT, ils réclament l'ouverture de réelles négociations concernant un départ anticipé pour les métiers pénibles. Du coup, branche de la CGT qui doit être bien concernée par la pénibilité au travail, et un retour aux 10 critères de pénibilité, ainsi que le retrait des poursuites judiciaires engagées contre l'administrateur de la fédération de la CGT. Alors, les 150 militants CGT sont arrivés très remontés ce matin pour se faire entendre et pour se faire encore mieux entendre et être pris encore plus au sérieux. Ils ont commencé par coller des autocollants sur le bâtiment, ce qui est plutôt gentil. Puis, ils ont décidé de saccager l'accueil en détruisant notamment des ordinateurs. Malheureusement, sur les 150 personnes ont été arrêtées, puis conduites.
Quoi ? Autant ? Comment ça se fait ?
Parce que j'imagine ils sont pas partis en courant et possiblement si c'est un peu du genre à dire on assume ce qu'on fait là, tu vois.
Et fait comme si t'avais jamais occupé un bâtiment en attendant que les flics arrivent et que ce soit eux qui décident qu'ils embarquent.
Ils ont été ensuite conduits au commissariat de Villeurbanne. Voilà, on n'a pas trop d'infos sur ce qui va être les charges qui vont être retenues contre eux.
Deux policiers de la BAC de Seine-Saint-Denis en garde à vue. Donc, les deux policiers ont été interpellés mardi et placés en garde à vue. Ils sont suspects. Les deux suspects présumés. Les deux suspects sont. C'est que ma phrase est vraiment pas française. Donc, les deux suspects sont suspectés d'avoir prêté main forte à un réseau de maquilleurs, de revendeurs et de trafiquants de voitures. Donc, la police des polices a agi sur commission rogatoire d'un juge pour association de malfaiteurs. Et a aussi procédé à des perquisitions à la BAC de Seine-Saint-Denis.
Ah mais ça fait toujours plaisir des petites infos comme ça quand même.
Elle est bien celle-là. Hein. Et apparemment ils auraient pu livrer des informations confidentielles aux présumés réseaux de trafiquants, notamment sur les numéros d'immatriculation des véhicules.
Alors, un arrêté anti-prostitution à Toulouse. Donc, c'est l'association Griselidis de Toulouse, une asso de santé communautaire, qui a mis en place en ligne une pétition pour demander la suppression de l'arrêté anti-prostitution actuellement en vigueur. Donc, il a été mis en place le 7 juillet 2014 et permet de pénaliser la prostitution de rue dans 4 des principaux secteurs où celle-ci s'exerçait jusqu'à présent, et les personnes qui continuent à se prostituer dans ces zones sont passibles d'une amende de 38 euros. Donc cet arrêté a fait suite à chaque fois à une série de mesures similaires prises dans d'autres villes de France, donc Lyon, Albi, Béziers, Bordeaux, Limoges, et s'inscrit dans la continuité des politiques locales qui, depuis de nombreuses années, tentent d'éloigner les prostituées des centres-villes, alors même qu'elles sont déjà pénalisées. Vous savez, il existe ce délit de racolage passif, et privé de droits sociaux et humains, en particulier les personnes migrantes et les minorités sexuelles. Plus largement, cet arrêté rappelle l'ensemble des mesures répressives prises dans notre pays à l'encontre des plus exclus, l'expulsion de squats, les démantèlements des camps de Roms et de migrantes, les multiplications des arrêtés anti-mendicité dans les centres-villes, pareil que pour virer les putes, pour virer les pauvres, la pénalisation des usagères de drogue, le renforcement de politiques migratoires inhumaines, le désengagement de l'État vis-à-vis des précaires et des structures qui les accompagnent. Donc depuis l'application de cette mesure du 7 juillet, les prostituées toulousaines se sont en grande majorité déplacées vers des lieux reculés, peu habités et peu fréquentés. Et donc l'asso Griselidis rappelle que cet isolement les rend plus vulnérables aux violences, notamment par exemple dans l'impossibilité d'appeler à l'aide en cas de danger. Et ça devient des cibles plus faciles parce que quand on est en bande, et ben on peut riposter. Quand on est isolé, ben c'est moins évident. Donc ça engendre également des conflits de territoire entre prostituées et les habitantes des quartiers, des nouveaux quartiers. Et voilà, donc Griselidis, je répète, a mis en place une pétition en ligne. L'idée, elles viennent de le faire tourner dans beaucoup de listes internet. L'idée, c'est que ça soit signé par énormément de gens, j'imagine, pour pouvoir faire pression sur la mairie. C'est pour ça qu'elles ont diffusé sur des listes nationales. Et donc, vous trouvez la pétition sur le site change.org. C'est loupé. On continue.
Alors, des drones dans la police nationale. Le ministère de l'Intérieur donc songe à équiper la police et la gendarmerie de drones. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a indiqué qu'il souhaitait que les services de police et de gendarmerie puissent être équipés de drones tout bientôt. Ces appareils sont déjà utilisés par les pompiers pour la surveillance des feux et par la sécurité civile pour retrouver des victimes en montagne, tout ça. Et actuellement, l'utilisation de drones par les forces de l'ordre est au stade d'expérimentation, notamment depuis 3 mois à Saint-Astier en Dordogne. Pour les policiers et les gendarmes, les drones pourraient servir pour la lutte contre la criminalité organisée, trafic de stupéfiants par exemple, donc suivre les gofages, je suppose. Lors de violences urbaines, et c'est ça qui est drôle, mais bon, ça c'est une autre question. Lors de violences urbaines et pendant des prises d'otages.
Mais donc, ça fait quand même cher.
C'est ce qu'il déclare. Et donc la petite blague, c'est. Donc là, c'est Cazeneuve qui parle. Nous sommes mobilisés pour faire en sorte que les budgets soient là et près de 108 millions d'euros seront investis au cours des 3 prochaines années pour l'équipement de la police et de la gendarmerie. Voilà.
Trois vendeuses devant les prud'hommes. Elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
Alors, il y en a qui ne devraient pas se faire attraper par ces drones. C'est les trois lascars dont je vais vous parler maintenant. L'histoire s'appelle l'histoire de la fiole astucieuse. C'est comme ça que les flics en parlent. Ça s'est passé une 25aine de fois depuis le mois de septembre 2013. Et donc, c'est, voilà. Ça s'est passé à peu près 25 fois qu'un petit vieux à Paris-Centre, et puis petit à petit, ces derniers temps, ça a commencé à être aussi un petit peu, certains départements de la banlieue parisienne, ils semblent plutôt les départements où il y a des sous. Donc, un petit vieux, ça sonne à sa porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir. Et là, il y a un monsieur en combinaison de travail qui lui dit qu'il est envoyé par le service des eaux et qu'il a besoin de tester la qualité de l'eau au robinet. Il rentre, il donne au petit vieux une bouteille en lui demandant de la remplir au robinet pour l'emmener. Il furette un petit peu dans l'appartement vite fait. Et puis, au moment où le petit vieux a fini de remplir sa bouteille et va la donner, ça ressonne à la porte. Et là, deux personnes arrivent, des policiers, qui montrent leur carte, bon, un peu rapidement, mais une carte tricolore, tout ça, très sérieux, qui disent « Monsieur, madame, vous êtes actuellement victime d'un cambriolage. » Ils sautent sur le gars du service des eaux, ils lui mettent des menottes. Et puis là, ils disent au petit vieux « Voilà, en fait, on pense que vous venez d'être cambriolé. » Maintenant, peut-être commencer par vérifier si vos objets précieux sont encore dans l'appartement. Le petit vieux va de cachette en cachette.
C'est
commence par aller regarder sous les chaussettes si la bague de sa grand-mère est encore là. Puis dans le tiroir de la cuisine si ses bifetons sont encore là. Et une fois que tout le monde est sorti de l'appartement, les cachettes qui étaient encore pleines au moment où les policiers le lui ont demandé, tout d'un coup sont vides et voilà. Et là, vu les histoires qui étaient racontées de ce que les petits vieux avaient perdu, il semble quand même que ça soit pas massivement des petits vieux très très pauvres, parce que alors que des vieux aient de l'argent en liquide, oui, mais qu'ils aient 3 000 $ en liquide par exemple. Voilà, après effectivement l'histoire de bac de grand-mère, tout ça, c'est une histoire sans moralité.
Si t'es... À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que ce soit vraiment...
vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Alors, on commence, faut que ça sache, par une info sur une nouvelle action qui va être mise en place par l'Union européenne. Alors, ça se passerait, il y a eu un avertissement qui a tourné sur pas mal de listes, voilà, et ça s'appelle avertissement pour les voyageurs, et du 13 au 26 octobre aurait lieu dans toute l'Union européenne une opération policière intitulée Moss My Room, ça veut dire coutume des anciens. Dans la Rome antique, ça désigne le système de valeurs ancestrales, pour la petite information. Et donc, en gros, cette action de l'Union européenne serait que pendant 2 semaines, environ 18 000 policiers, donc sur toute l'Europe, en étroite collaboration avec Frontex, vont aller à la chasse contre les personnes sans papiers. Et ils veulent un peu découvrir les chemins de migration et arrêter le plus grand nombre de personnes. Donc, l'idée, c'est de faire tourner massivement cette information. Et de faire très attention dans tout ce qui est les trains, dans ce qui est les gares, les aéroports, les autoroutes, aux frontières inter-européennes. Il faut s'attendre à une augmentation des contrôles.
Il faut que ça se sache.
Eh bien, notre maintenant habituel point sur Calais, où des nouvelles menaces d'expulsion de campements ont lieu. Donc, la semaine dernière, on a diffusé une interview de Nan, qui est coprésidente d'une asso, la Terre d'Errance, qui s'occupe notamment d'un des campements à Noranfonte. Et je vais vous parler un peu de la situation de ces différents campements qui ne sont pas sur la ville de Calais, mais autour, au bord des autoroutes. Donc la mairie de Stenvoort, donc c'est là où il y a un autre lieu, avait un autre campement, avait jusqu'à présent une politique plutôt bienveillante à l'égard du campement d'exilés présent sur le territoire de la commune. Il y avait un accès à des douches, l'acceptation du campement situé l'été sur un terrain privé et l'hiver mieux protégé du froid. L'ancien maire a été reconduit aux dernières municipales, mais son attitude là a changé et la destruction du campement est en marche. Il n'est plus question de campement d'hiver ni d'accès aux douches. Donc on voit à Stenvoort qu'il y a un énorme recul dans le positionnement du maire de la ville pour justement faciliter un peu la vie des migrants en transit qui vont vers l'Angleterre. Ensuite, donc la mairie de Noranfonte, dont on parlait la semaine dernière, avait plusieurs donc le maire d'avant était conciliant et avait mis en place justement un campement avec accès aux douches, pareil, etc. Mais le maire a changé et le nouveau menace de supprimer l'approvisionnement en eau par les services municipaux et de faire détruire le campement. Rappelons qu'il a déjà mis cette menace à exécution en septembre et pendant un jour l'eau avait été coupée. Mais qu'il l'a pas renouvelé depuis, mais il continue à menacer et il menace aussi pour par rapport au nombre de gens qui sont sur le campement, sauf que les assos ne peuvent pas choisir et décider le nombre de gens qui sont sur un campement. Et si elles accueillent le plus de monde qui vient et elles décident pas, elles ont pas de critères pour refuser les gens. Et maintenant, c'est autour de Tetegem, c'est au nord-ouest de Dunkerque. Le campement situé sur un terrain appartenant à la communauté urbaine avait pu lui aussi être aménagé avec la construction de baraquements, l'aménagement de toilettes sèches et de cabines pour se laver, un approvisionnement en eau. et le maire est le même qu'avant les municipales. Il annonce pourtant l'expulsion du campement dans 3 semaines. 50 personnes seraient réinstallées sur un autre terrain sur les 200 qui habitent actuellement le bidonville. Donc 150 personnes sont donc sommées de disparaître, à moins qu'elles ne soient arrêtées. Bref, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ce qui va se passer, c'est ce qui, a priori, c'est ce qui se passait il y a quelques années, avant que ces campements, avec un peu l'accord des municipalités, soient un peu, entre guillemets, acceptés et légalisés. Ben, c'est comme là, ce qui est dit, là, des bidonvilles, des campements insalubres et de fortune, et du coup, une plus grande précarité pour les personnes qui vont aussi, avec la préfecture, se font faire expulser plus régulièrement. À noter qu'aucun jugement d'expulsion ne semble avoir été prononcé pour l'instant et que le maire se targue du soutien des associations pour déménager les exilés. Donc là, ce qui, pour info, donc c'était qu'en 2012, c'était créé un réseau des élus hospitaliers. Et que bah on peut voir que maintenant on est octobre 2014, qui a priori ce serait plus créé une union des maires inhospitaliers. Donc ça fait quand même pas mal. Calais, Noranfond, Stanford, Tetegem, tous UMP pour l'instant. Ou à moins qu'il ne s'agisse d'une politique de l'État et que Cazeneuve, s'appuyant sur les élus les plus réceptifs, leur ait demandé de trouver une bonne solution, c'est-à-dire l'expulsion des campements. En tous les cas, la solidarité minimum qui s'était mise en place de la part des élus est fortement remise en question et que bah, on continuera d'en parler tant qu'il faudra.
Que ça se sache.
Et ben voilà.
Ce qui nuit à faux touche à sa fin.
On pourrait faire un petit agenda pour rappeler les dates qui ont été dites pendant ce qui nuit info. Donc samedi, ce samedi à 15h à Place Bellecour, il y a une manifestation en solidarité avec la résistance de Kobané.
D'autres trucs ?
Et oui, et sinon le mardi 14 octobre à la bibliothèque de la Pardieu de 18h30 à 20h30, il y a Pinard Selec qui va venir et ça s'appelle son intervention s'appelle Les possibilités d'inventer la politique malgré la violence extrême. C'est très intéressant que du coup cette sociologue féministe turque qui notamment soutient énormément la communauté kurde vienne parler de cette question à l'heure de la guerre au Kurdistan.
Eh ben, on a fini pour ce soir.
Ouais.
T'as pas de petite météo ?
Non.
Il va pas faire beau.
Moi, pas terrible, je crois.
C'est le début de l'hiver.
C'est ça.
C'est la fin.